Nous poursuivons notre culte et j'espère que vous êtes toujours dans la même joie que vous avez dit tout à l'heure lorsque Rebecca vous demandait si vous étiez dans la joie. Moi, je suis dans la joie naturellement parce que c'est toujours un privilège de pouvoir étudier et apporter ensuite la méditation le dimanche matin. Et ce matin, le texte que j'aimerais lire avec vous qui nous servira un petit peu de tremplin, de base ou de cadre à la méditation, est le texte que Rémi va projeter, tiré de la deuxième épître de Paul à Timothée. Et Paul écrit à Timothée, il dit « C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu te donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. En relisant cette épître de Paul à Timothée, je me suis rendu compte encore une fois à quel point on peut oublier que les lettres que Paul a écrites sont des lettres qu'il écrivait à des personnes qu'il connaissait. On a souvent l'image de Paul comme étant le grand enseignant, le docteur, le théologien, celui vers qui on se tourne pour essayer de comprendre la grâce, le péché, toutes ces grandes questions. Et on oublie quelquefois que c'est d'abord à des personnes qu'il écrit et que Paul n'était pas simplement un théologien dans une bibliothèque qui écrivait des documents. C'était quelqu'un qui allait de ville en ville et qui parlait avec des gens pour les convaincre de la bonne nouvelle et d'accepter cette bonne nouvelle. C'était quelqu'un qui ensuite nourrissait toutes ces personnes qui étaient venues à la foi pour les établir dans la saine doctrine. Et puis une fois qu'il était parti pour aller implanter d'autres églises, il restait en contact avec ces personnes, premièrement en priant pour elles au jour le jour, mais aussi en leur écrivant des lettres lorsqu'il entendait ce qui se passait dans ces églises. Et j'aimerais ce matin que vous vous mettiez dans cet état d'esprit. C'est que ce que nous avons lu ici, c'est un texte qui n'est pas simplement un texte doctrinal ou dogmatique. Ce n'est pas simplement un texte qui nous enseigne comment bien penser. Mais c'est d'abord, avant tout, la lettre que Paul écrit à certainement son meilleur ami dans toutes les années de ministère, Timothée. Et si vous lisiez le début de ce chapitre, l'introduction nous dit de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Paul aime les hommes. Paul aime l'Église. Paul aime les églises. Mais Paul n'était pas un illuminé à penser que l'église était parfaite, qu'elle était toujours belle, qu'elle devait être le lieu où tout se passait bien. Et c'est pour cette raison, parce que ce n'était pas un naïf ni un illuminé, c'est pour ça qu'il écrit aux églises, pour les aider à progresser dans l'évangile, à progresser dans la saine doctrine, à mûrir, et surtout à lutter contre toutes sortes de choses qui l'agressent. Et je vous invite à relire cette épître, parce que c'est la dernière épître que Paul a écrite apparemment, d'après ce qu'on sait. En tout cas, c'est la dernière que nous ayons. Il en a peut-être écrite après, mais en tout cas, c'est la dernière. Et Paul est à Rome, il a été amené de Césarée, enchaîné, et il va comparaître devant Néron. Parce qu'il a fait appel. En tant que citoyen romain, il a dit « Personne ne peut me juger si ce n'est l'empereur. » Et là, Paul, je me demande s'il y a des moments où il ne s'est pas dit « Wow, qu'est-ce que j'ai fait de dire cette chose-là quand j'étais à Césarée ?» Parce que l'empereur devant lequel il va comparaître, c'est Néron. Et Néron, si vous connaissez un tout petit peu l'histoire, c'est celui qui était à moitié dingue, si pas trois quarts, et qui avait décidé que si Rome avait brûlé, c'était la faute des chrétiens. Et donc, on allait leur faire payer. Néron n'était pas un tendre. Néron n'était pas le genre à faire grâce. Néron était le genre à « il faut absolument éradiquer ce qui, dans mon empire, peut être subversif. » Et en ce moment, ce qui est subversif, c'est les disciples de Jésus-Christ. Et Paul est en prison là-bas. Et il attend le bon vouloir de Néron. Ce n'est pas comme aujourd'hui où vous avez un certain délai dans lequel vous devez être jugé, après quoi il y a un vice de procédure et vous êtes libéré. On attendait le bon vouloir de Néron. Mais autre chose se passait aussi, c'est que Paul, lorsqu'il était enfermé, il y a eu un certain nombre de ses collaborateurs qui se l'ont abandonné, qui sont partis, qui ont fait leur truc à leur façon, ou même qui se sont retournés contre eux. Et dans le chapitre 4 de cet épître, Paul cite deux personnes en particulier, un certain Démas et un certain Alexandre le forgeron, qui apparemment tous les deux avaient été des collaborateurs pendant son ministère et qui là, au moment où l'apôtre Paul est enfermé, ne peut plus vraiment peut-être avoir une influence, décide de partir de leur côté et l'abandonne. Et là, Paul, il se sent, abandonné, seul. Et c'est pour ça qu'il écrit à Timothée. Parce qu'il dit, Timothée, j'ai besoin de toi, viens à Rome. Et Timothée, il n'y a pas que sur toi que je peux compter, mais était quand même un des seuls qui, jusqu'au bout, aura été fidèle. Et c'est tout ça les sentiments de l'apôtre Paul qu'il a lorsqu'il écrit cette lettre. Et c'est pour ça que je vous invite à vraiment penser à cette lettre comme étant celle d'un collaborateur dans le Seigneur, d'un ami qui écrit à un autre ami. Mais vous serez surpris d'une autre chose, c'est que lorsqu'il écrit cette lettre, Paul n'est pas en train de s'épandre dans tous les problèmes qu'il a pu avoir et puis de se plaindre en disant « Regarde ce qu'ils m'ont fait ». Tu vas voir ce que Néron va me faire, j'ai peur. L'apôtre Paul, il va utiliser encore ce moment pour écrire une lettre qui va être une lettre d'encouragement, d'exhortation pour son ami Timothée. Mais à l'époque, lorsqu'on écrivait une lettre à un individu, on savait que cette lettre allait être lue un petit peu autour. Donc Paul savait bien que cette lettre serait lue par l'église d'Éphèse et certainement les autres églises. Il ne savait pas que nous, on la lirait encore aujourd'hui. Mais donc il ajoute encore des choses là-dedans qui sont des exhortations, des choses qui lui tiennent vraiment à cœur au moment où il est en train de se dire « j'arrive à la fin ». Et au chapitre 4, il dit « oui, c'est la fin pour moi. Je vais être offert, moi aussi ». Mais il profite de cette situation encore une fois, non pas pour regarder à quel point la situation est difficile pour lui, mais il regarde à qu'est-ce qui est fondamentalement l'essentiel et il reprend la plume pour dire « Timothée, il faut que tu continues. Il faut que les églises continuent. » Et j'aimerais ce matin que nous regardions simplement ce verset 12, Rémi, si tu peux le remettre. Et nous avons cette phrase extraordinaire qu'il dit presque au début de cette lettre, où il dit, c'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais je n'en ai pas honte car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et ça, c'est un texte qui pour moi résonne de la même façon que le texte que Rebecca a lu ce matin de Romains 8, où il dit, nous avons l'assurance, ou j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, il y va, hein, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et en lisant ces deux textes, je me suis dit, John, quand est-ce que toi t'as écrit quelques lignes comme ça ? Quand est-ce que tu t'es trouvé dans une situation où devant l'adversité, ou peut-être où tout était bouché, tu arrivais encore à écrire un verset qui dit « J'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Combien de fois dans votre prière est-ce que vous-même vous êtes pris dans cet élan ou face à l'adversité, ou quelles que soient les circonstances, quoi que vous ayez vécu, vous êtes là encore et vous pouvez dire des simples mots, j'ai la ferme confiance qu'il gardera mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ou que rien qui puisse se passer, quoi que vous ayez vécu, ne pourra jamais vous séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul est un homme de foi extraordinaire. Et lorsqu'on regarde ça, on regarde sa propre vie et de ce qu'il a vécu. Quel exemple. Quel exemple. Mais aussi quelle interpellation pour savoir à quel point est-ce que nous avons progressé dans notre propre foi, à quel point est-ce que nous nous sommes ancrés dans l'évangile et dans l'enseignement du Seigneur pour qu'à un moment ce soit de simples paroles qui sortent comme ça ou des paroles comme Romains 8 où il y va de tous ces mots et puis il n'arrête jamais, etc. Et tout, mais rien que vous pouvez imaginer ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ah, c'est de la bonne théologie, moi je l'enseigne parce que c'est ce que dit l'Écriture, mais quand est-ce que ça sort de mon tréfonds et de moi-même pour dire que j'ai moi-même cette certitude et cette confiance que Dieu ne me trahira pas et que jusqu'au bout, il restera fidèle. Mais comme je l'ai dit, l'apôtre Paul n'est pas un naïf. Et autant il peut écrire des choses comme ça, autant il a les yeux ouverts sur des choses importantes qui se passent dans l'Église. Et dans cette épître, mais dans la première épître à Timothée aussi et dans l'épître de Tite, il va, dans un sens, toucher du doigt trois objectifs qu'il veut transmettre. Un des premiers objectifs, c'est lié à naturellement l'Église, le corps de Christ. On regarde souvent les épîtres de Timothée comme les épîtres qui nous parlent un petit peu de l'organisation de l'Église avec les anciens, les diacres, etc. Mais en fait, l'essentiel de ces épîtres n'est pas là. L'essentiel des épîtres de Paul à Timothée et à Tite, c'est l'hérésie et l'apostasie. Paul est soucieux que dans l'Église, on s'attache fermement à la bonne nouvelle et à la vérité de ce message. Et il ne faut pas croire qu'au début de l'Église, c'était plus facile qu'aujourd'hui de penser correctement et de savoir ce qu'était l'Évangile, en se disant on était tout près du Seigneur, on est tout près des gens qui l'ont côtoyé, donc naturellement on doit savoir ce que Jésus a voulu enseigner, on le sait. Non. Si vous relisez la plupart des épîtres, vous verrez à quel point l'apôtre Paul est en train d'essayer de corriger un certain nombre d'erreurs qui se trouvent dans l'Église. Et à l'époque, comme on le trouvait principalement dans l'épître aux Galates, c'est qu'il y a toujours cette tendance à ce que dans le cœur de l'homme renaisse le désir qu'il a de s'auto-justifier devant Dieu. Et de revenir à toutes sortes de pratiques, qu'elles soient juives, qu'elles soient païennes, qu'elles soient d'autres choses. Mais on se dit, je vais me représenter devant Dieu comme étant quelqu'un de bien. Et c'est toujours cette tendance qui remonte dans le cœur de l'homme. Et Paul est constamment en train de dire, non, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça. Il faut absolument laisser ça de côté et il faut s'attacher à la grâce qui nous est faite. C'est Jésus-Christ qui nous rend notre dignité. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix. Ce n'est pas ce que nous faisons, ni ce que nous ferons. Et Paul luttait constamment. Et il regardait chacune des églises individuelles, comme la nôtre ce matin. Il disait, qu'est-ce que vous enseignez? Qui dit quoi, là? Et dès lors qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui allait de travers, il intervenait et il disait, non, ce n'est pas ça. Et laissez-moi vous dire, ça devait être certainement plus dur à l'époque de l'apôtre Paul et juste après de comprendre l'évangile que de le comprendre aujourd'hui. Parce qu'une pensée comme l'évangile n'était montée au cœur d'aucun religieux ou d'aucune philosophie ou d'aucune religion de l'époque. C'était complètement étranger à la façon dont l'homme pensait. Personne n'avait imaginé une chose pareille. Qu'un Dieu s'incarnerait et deviendrait homme, qu'un Dieu viendrait payer le prix, et qu'ensuite toute l'idée de sacrifice, de choses comme ça et tout, disparaîtrait, parce que ça a été résolu une bonne fois pour toutes, et ensuite il en fait cadeau aux hommes. Personne n'avait été aussi fou pour inventer une chose pareille. Alors on comprend bien qu'à l'époque, dans les églises, avec toutes les différentes idées qui pouvaient flotter un petit peu dans l'Empire à l'époque, Paul avait du mal à ce que ça transparaisse. Même quelqu'un comme l'apôtre Pierre, on le voit dans l'Épître aux Galates, à un moment, il se dit « Ouh là là, je vais peut-être aller par là du côté des Juifs, parce que, voilà, il ne faut pas faire les choses trop mal et être trop radical et trop révolutionnaire. » Et Paul sera obligé de le reprendre en public en disant « Pierre, c'est pas ça. Tu es en train de compromettre l'Évangile. » Tu es en train de compromettre cette bonne nouvelle. Il faut que tu reviennes à ça. Et donc, on lit par exemple dans la première épître à Timothée, au premier chapitre et au verset 3, lorsqu'il écrit à Timothée, il lui dit « À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. » Donc à la fin de sa vie, Paul, encore une fois, il sait ce qui se passe à Éphèse, il entend des choses, et il recommande encore à l'Église, et recommande à Timothée d'enseigner pour que ce soit l'intégrité de l'Évangile. Chers amis, ici j'aimerais faire une tout petite aparté. En vous encourageant, peut-être à un moment où vous souffrez d'insomnie, allez lire sur Internet les conclusions des grands conciles qui aient lieu dans les premiers siècles de notre ère. On dit les conciles, oh, c'est les trucs de l'institution catholique, on n'en parle pas. Sachez une chose, l'Église catholique n'existait pas à l'époque, donc ça ne peut pas être catholique. Mais même Calvin, au XVIe siècle, disait, nous reconnaissons quand même la valeur de ces grandes rencontres où l'Église se retrouvait pour clarifier un certain nombre de choses, parce que jusque dans le 3e et 4e siècle, il y avait encore des débats sur des points de doctrine qui pour nous paraissent évidents. Mais merci au Seigneur, dans un sens, d'avoir à un moment provoqué dans l'Église des débats pour qu'elle se rassemble et elle décide à un moment ou à un autre, non, c'est ça effectivement auquel il faut qu'on s'attache. Et sachez une chose, c'est que ce que vous croyez aujourd'hui et dans notre Église est aussi grâce à ces églises qui, dans un sens, ont poursuivi le travail pour essayer de le formuler et de dire des choses qui étaient importantes. En 325, donc on imagine, déjà 250 ans plus tard, le concile de Nicée est obligé de se rassembler parce qu'il y a des disputes dans l'Église. Et que là, enfin, on arrive à dire... Oui, il faut croire, parce que c'est ce que dit l'Écriture, que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et qu'il est le Fils de Dieu. Ça vous paraît aberrant, mais pendant 250 ans, l'Église était en train de se dire « Mais comment est-ce qu'il est devenu Fils de Dieu ?» Et s'il est Fils de Dieu, est-ce qu'il est légèrement inférieur à Dieu le Père ? Alors vous, ça vous paraît peut-être être la même querelle que combien d'anges est-ce qu'on peut mettre sur la tête d'une aiguille ? Inutile. Mais ça a pris 250 ans à l'Église pour arriver à un moment ou un autre, éradiquer du milieu d'elle-même ces pensées qui étaient néfastes et qui en fait réduisaient la position de Jésus-Christ. En 381, donc 50 ans plus tard, le concile de Constantinople dit « Oui, la doctrine de la Trinité, c'est-à-dire où Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit à la fois, et que ce sont trois personnes, ça, c'est ce que dit l'Écriture. » Mais pendant longtemps, l'Église était en train de débattre, en train de dire, mais qu'est-ce qu'il faut savoir ? Et je pourrais continuer ici, mais j'aimerais simplement relever aussi ce que Jean-Paul était en train de nous rappeler dans ses différentes prédications sur les trois solas. Alors il en a pris cinq, mais au début il y en avait vraiment trois. Les trois, c'était à un moment au XVIe siècle où Calvin devait rappeler à l'Église, c'est seule la grâce qui nous sauve. Quoi, Luther, pardon. 16 siècles pour se rappeler que la grâce sauve. Que c'est seule la grâce qui sauve. Seule la foi. Et seule l'Écriture. Et heureusement que quelqu'un comme Luther était là et que Calvin a suivi derrière. Parce que ça a ramené dans la chrétienté les bases dont nous avions besoin. Parce que tout d'un coup, l'Église était partie un petit peu par là, un petit peu par là. Et je vais vous dire aujourd'hui, il faut qu'on ouvre l'œil aussi, me semble-t-il. Non pas que je sache exactement ce qu'il faut bien croire ou ne pas croire, mais il y a des choses qui sont parfois bizarres dans nos églises. à l'intérieur même de nos églises. Et ce qu'aime à rappeler Pierre de temps en temps lorsque nous discutons, dans l'église on a l'impression qu'on se retrouve à l'époque des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ça, c'est une des faiblesses de nos églises protestantes. Parce que dans nos églises protestantes, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas une seule église. Quoi, s'il y a une église, mais elle est tellement mystérieuse qu'on ne la voit pas, donc on continue à faire nos dénominations. Et puis dès qu'on n'est pas d'accord avec les autres, je vais créer ma dénomination. Et puis vous rajoutez à cela... Je ne veux pas démoniser la chose, mais je veux dire, aujourd'hui, le monde est un grand supermarché grâce à Internet. Hein. Vous pouvez aller écouter qui vous voulez, de n'importe quel pays, ça sera sous-titré ou traduit, et vous pourrez penser ce que vous voulez penser. Et je ne voudrais pas tirer à boulet rouge, mais je vais le faire quand même. Sur tout ce qui aujourd'hui existe sur la théologie de la prospérité et de la santé, c'est de l'ordre de l'hérésie. Et ça vit, et ça croît, et ça se développe dans nos églises. Il y a de l'argent tout autour, et il y a des gens qui sont éconduits par des idées qui sont totalement erronées. Alors je ne vous demande pas de simplement revenir à ce que le conseil d'anciens ici va vous dire de croire ou de ne pas croire. Je vous demande simplement, comme dit l'apôtre Paul, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil et attachez-vous vraiment à ces fondamentaux qui sont la grâce en Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, sa grâce, sa résurrection, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies pour nous appliquer ce salut et nous transformer de gloire en gloire. L'espérance qui est presque une œuvre du Saint-Esprit dans nous et qui atteste que oui, notre avenir n'est pas bouché, mais qu'un jour toutes choses seront rétablies et réconciliées avec Dieu. Et puis je pourrai aller plus loin dans certaines choses qui me paraissent aussi essentielles. Mais ne croyez pas aujourd'hui que tout est bon, tout est bien, on peut... Combien de fois est-ce que j'entends dans les conversations, oui, mais enfin, moi je pense que... Je ne pense pas que l'Écriture nous invite à dire, moi je pense que... Ah, on peut dire ce qu'on veut à Dieu, mais à un moment ou à un autre, c'est... Qu'est-ce qu'on reçoit de Dieu et comment est-ce qu'on conforme, est-ce qu'on a répété à l'envi avec les anciens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on laisse notre intelligence être transformée pour penser différemment? Ça, c'est le premier souci qu'avait l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à Timothée et lorsqu'il a écrit toutes ses lettres. Il aime les églises comme les églises de Prêves-Saints. Au point où il dira, qu'est-ce que vous enseignez? Est-ce que les gens sont affermis dans l'évangile et dans la saine doctrine? Le deuxième type d'objectif que l'apôtre Paul a aussi, c'est ici des objectifs que je dirais pour les pros du ministère. Mais vous verrez, ça s'applique un peu à tout le monde. Et ici, il parle à Timothée en tant que ministre, en tant que quelqu'un qui a un don qu'il exerce dans l'Église. Et la première des choses que nous avons lues au verset 6, c'est « Ranime la flamme de ce don que tu as ». Et je trouvais marrant que le général Booth de l'armée du salut, à un moment ou à un autre, il parlait à toutes ses troupes, puis il leur disait, vous savez, le propre du feu, c'est de s'éteindre. Si on le laisse tout seul, le feu, il va s'éteindre. Donc, ce qu'il faut, c'est continuer à l'attiser, le nourrir, le développer. Et si l'apôtre Paul, ici, n'utilise pas strictement l'image du feu, on en est tout proche. Ranime ce don. Et il y a plein de choses qui peuvent nous faire, dans un sens, glisser dans l'exercice de notre don. Au bout d'un moment, on peut être un petit peu fatigué. On peut être déçu par les autres. Ou alors, ce qui s'observe très bien aujourd'hui aussi, mais enfin à l'époque là aussi, c'est que ça devient quelque chose qui nourrit plutôt notre personne, notre ego, notre profil et notre place dans l'Église, plutôt que ça ne reste un service envers les frères et sœurs. Mais ce que dit l'apôtre Paul ici, c'est que vous n'avez pas reçu quelque chose qui va être parfait tout le temps, tous les jours. Mais il y a des choses qui peuvent le menacer et qu'à un moment ou à un autre, ça va se dégonfler. Et peut-être le don que vous avez n'est pas en train de servir l'Église à la hauteur de ce que le Seigneur souhaite. Alors, je ne suis pas en train de faire de la pression en disant « allez, 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 on continue » et tout ça. Je relève simplement cette exhortation de l'apôtre Paul qui dit « ranime la flamme du don que tu as ». Vous savez, la vie est longue. Hein, beaucoup de choses se passent. Et beaucoup de choses peuvent en fait nous faire ralentir et nous faire tout simplement changer complètement d'attitude et ne plus avoir la même passion qu'on avait au début. La deuxième exhortation qu'il donne à ce pro du ministère, c'est de prêcher la parole. Et là aussi, lorsque Paul fait référence à la parole, il n'est pas en train de dire simplement tout de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse n'avait pas été écrite à l'époque, mais il est en train de dire « prêche l'Évangile ». La parole, c'est d'abord et avant tout l'Évangile, cette bonne nouvelle, et cette parole qui est créatrice, et cette parole qui a cette vie de Dieu en nous. Il faut prêcher non pas simplement une connaissance des Écritures et une connaissance qui reste là-haut, mais prêcher une parole qui va transformer les vies. Une parole qui va être une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont abattus et qui souffrent et qui se sentent loin de Dieu, même si c'est de leur faute. Mais il faut prêcher la Bible comme si c'était toujours la bonne nouvelle. Et comme si c'était toujours une exhortation à « rapprochez-vous de Dieu, soyez réconciliés avec Dieu, parce que c'est ça que le Seigneur veut. » Ainsi donc, vous tous qui avez une responsabilité d'enseignement, que ce soit du jardin biblique jusqu'à être ici en chair, n'oubliez jamais, c'est l'Évangile que vous prêchez, c'est une bonne nouvelle que vous annoncez. Et avec la même passion que l'apôtre Paul avait lorsqu'il parle aux Corinthiens, et il leur dit, mais je vous en supplie, soyez réconciliés avec le Seigneur. C'est la passion qu'il avait, et il dit à Timothée, prêche la parole, cet évangile. La troisième exhortation qu'il fait, il dit, rappelle aux croyants ces vérités. Combien d'entre vous est-ce que vous pensez avoir déjà fait le tour de l'évangile, déjà fait le tour de la Bible, vous savez tout? Moi je suis étonné, quelquefois les gamins à l'école du dimanche, hein, on en connaît un rayon. Hein. Moi j'étais presque incollable moi à l'école du dimanche et en colonie. Moi. N'importe quelle histoire, les couleurs des vêtements, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, dans quel ordre il fallait lire les livres de la Bible, incollable. Et pourtant, ici, Paul, il dit, et c'est là où il est réaliste avec l'être humain aussi, et il sait qu'il y a cette œuvre qui se poursuit dans la vie, et lui-même, il en est conscient jusqu'au bout, parce que même dans cette épître, il parlera, il se souviendra d'avoir été un homme violent, d'avoir été un persécuteur, d'avoir été un blasphémateur. Et c'est quelque chose qui doit certainement continuer à le peiner par moments. Et c'est là où il dit, mais il faut que nous nous rappelions de ces choses, parce qu'il faut que nous soyons transformés, il faut qu'elles pénètrent notre tête et que nous ayons de nouveau cette transformation de notre intelligence. Et moi, je me souviens des années en arrière, j'avais été surpris par cette expression de l'apôtre Pierre à la fin de, je ne sais plus, la première ou la deuxième de ses épîtres, où sa conclusion, c'est « croissez dans la grâce ». Oh Pierre, t'en fais pas, on connaît, on est déjà dedans à pieds joints. Mais Pierre, lui qui avait vécu, il dit « croissez dans la grâce, vous n'en êtes pas au bout ». Et ici l'exhortation, c'est encore une fois de rappeler aux croyants. Alors s'il vous plaît, pardonnez-nous dans le conseil si on répète un certain nombre de choses. Ou s'il y a des choses que vous avez cru comprendre ou que vous pensez savoir. Mais on se permettra de les répéter. Si elle nous semble être aussi ce qui peut nous vivifier, nous faire progresser chaque jour dans le Seigneur. Et moi-même, il y a beaucoup de choses que je sais, que je pourrais écrire, que je sais là. Mais pour les vivre et les mettre en pratique au jour le jour, il y a encore du chemin à faire. Et il n'est pas inutile que le Seigneur me les rappelle. Ou que je vis dans une église qui me les rappelle. Et puis alors, le dernier, et qui est, me semble-t-il, bien pour notre Église, ce que tu as entendu, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et ce verset, il est dans un contexte où l'apôtre Paul rappelle à Timothée qu'il a reçu de sa mère et de sa grand-mère un enseignement et la foi. Et il a aussi reçu de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui dit, vas-y, retransmets-le à d'autres. Notre église est une des rares églises que j'ai vues où nous avons autant de générations. Nous en avons 4 en lignée directe. Et à quel point nous sommes ou nous devons être conscients que nous avons reçu de la génération qui nous a précédés, mais que nous avons aussi la responsabilité de transmettre à la génération qui monte. Parce que ce ne sont pas des pensées qui viennent naturellement au cœur de l'homme. Alors merci à tous ceux qui nous ont précédés dans cette église, qui non seulement ont bâti ces locaux, non seulement ont fait des dons de leur temps et de leur talent, mais qui aussi ont enseigné la parole, et cette parole qui s'est incrustée dans notre cœur, qui nous a fait découvrir la vie en Jésus-Christ. Mais je vous demande aussi d'avoir conscience de cette nécessité non seulement de répéter les choses, mais aussi de les enseigner à ceux qui ne les connaissent pas bien. Et nos enfants, simplement parce qu'ils sont nés dans nos familles, ne veut pas dire que par osmose, ils vont comprendre. Et nous avons cette responsabilité. Mais c'est une façon dont le Seigneur travaille. Donc on peut se réjouir. Mais l'apôtre Paul ici le rappelle fermement à son disciple, à Timothée. Il lui dit, surtout n'oublie pas de transmettre. Alors à bon entendeur, salut aussi lorsque nous aurons des conversations pour prendre la relève dans le conseil d'anciens. Ça fait partie du travail, de transmettre le flambeau, de vérifier que la flamme se propage et que tout le monde emboîte le pas. Et puis, pour conclure, dernière partie, le troisième type d'objectifs ici sont les objectifs que l'apôtre Paul, en fait, touche à tout ce qui est vraiment personnel et la vie du chrétien. Vous savez, comme moi, il ne peut pas y avoir derrière un grand homme ou une grande femme dans le monde quelqu'un qui n'est pas grand dans son cœur ou dans sa vie privée. Je ne citerai pas de nom, mais on a chopé des gens dernièrement qui tenaient des langages extrêmement beaux et tout, et puis après on voyait leur vie privée, et puis on se disait, mais ça sonne creux. Il doit y avoir une continuité entre la vie personnelle ou la vie publique, ou la vie que nous nous projetons, et la vie intérieure que nous avons. Et l'apôtre Paul sait que lui-même, ça a été une œuvre pour lui-même. Il n'était pas simplement quelqu'un qui était un professionnel de l'évangélisation et qui savait bien parler. Ce n'était pas simplement quelqu'un qui était romain et qui avait un carnet d'adresses. C'était quelqu'un qui, au très fond de lui-même, avait vécu ce qu'il enseignait. Et que jusqu'au bout, l'œuvre du Saint-Esprit allait se poursuivre dans sa vie pour continuer à le faire avancer et remporter cette victoire. Et donc, ces textes sont bourrés d'impératifs. Des verbes où on dit « efforce-toi, prends pour modèle, fortifie-toi ». Si vous lisez, vous en releverez des dizaines, mais 15, 20 peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais il y en a trois catégories qui me paraissaient intéressantes et je m'arrêterai là-dessus. La première, c'est naturellement de s'ancrer dans l'Écriture et s'ancrer dans l'Évangile. On n'a jamais fini de continuer à planter ses racines et à les faire pousser pour tenir ferme et pour croître. Il y a trop de choses à l'extérieur qui peuvent nous attirer dans d'autres directions. Il y a trop de circonstances qui pourraient éventuellement nous faire chavirer si nos racines ne sont pas suffisamment fortes. Pour ne pas croire que nous devions continuer à tout simplement nous enraciner, à écouter la parole de Dieu, revenir vers elle et dire « qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui ?» Et moi, cette question-là, aujourd'hui que j'ai plus de 50 ans, j'ai pas les mêmes réponses que lorsque j'avais 30 ans ou lorsque j'avais 18 ans ou 15 ans. Mais je dois me poser ces questions-là et continuer à m'ancrer dans cette parole. Et là, c'est la recommandation que Paul fait. Il dit « oui, Timothée, tu m'as entendu, oui, l'Église, vous êtes mon Église, où je vous ai implanté et tout, mais sachez une chose, c'est que vous allez constamment être tiré à droite et à gauche et qu'il faut que vous restiez, non pas stoïque en disant « j'attends que ça passe », mais plutôt de trouver dans l'Écriture et dans l'Évangile ce qui va vous faire tenir. Et pour ça, à nouveau, ça signifie s'imprégner de l'enseignement de l'Écriture et se laisser à nouveau transformer dans notre façon de penser pour que lorsque le moment arrive, je penserai différemment et ça sera possible de le faire. La deuxième chose, et ça vous verrez, il y a plein de recommandations, il dit « Prends pour modèle les saines paroles, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David. » Ouais, ben, écoute, Paul, on le fait tous les dimanches à la Sainte Seine, bon, tu nous le répètes. Mais qu'est-ce que ça signifie au quotidien de se souvenir de Jésus-Christ et de son sacrifice? Et à quel point est-ce que ça transforme notre façon de vivre et notre façon de voir le monde? La deuxième catégorie, qui est importante aussi, c'est que l'apôtre Paul, il dit, vous savez, il y a un certain nombre de choses qui sont inutiles. Alors, il n'en fait pas toujours le catalogue, mais il dit, vous savez quoi, on perd son temps par moment. Il y a certaines conversations, il y a certaines pratiques, il y a certains débats, il y a certaines choses qu'on fait dans la vie, c'est franchement inutile. Alors, peut-être que ça vous plaît, peut-être que ça fait plaisir, machin comme ça et tout, mais ça ne fait pas avancer l'Évangile. Et l'apôtre Paul, ici, il touche à deux sortes de choses. La première, c'est des débats qu'il pouvait y avoir dans l'Église, des discussions. À n'en plus finir, et qui ne faisait pas avancer la foi des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul, au lieu de rentrer dans la discussion en disant, ben voilà, je vais vous démontrer par A plus B que vous avez entièrement tort, il dit, vous savez, laisse tomber ça, consacre-toi à l'essentiel. Alors, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui, dans notre Église, pourrait éventuellement être superflu ou inutile, mais il doit y en avoir. Parce que l'apôtre Paul dit à un moment à Timothée aussi, « Fuis les passions de ta jeunesse. » Alors, ce n'est pas pour épingler la jeunesse, mais quelles sont les passions qui, quelquefois, nous paraissent légitimes ou qui nous attirent à droite et à gauche et qui, peut-être, ne sont pas vraiment ce qu'il y a de plus utile pour se construire soi-même ou construire l'Église. Et que ce soit dans cette épître ou dans l'épître à Tite ou même à Timothée, cette notion de « inutilité » est présente et très présente aussi. Et qu'il y a des choses, quelquefois, que l'on débat quand, en fait, l'Écriture est peut-être claire là-dessus. Et que le Seigneur nous dit simplement, tu sais quoi? Crois. Avec le temps, tu verras, et l'expérience, tu verras que probablement c'est plus vrai que tu ne le penses. Et on a tous connu des personnes qui se sont souciées de savoir s'il y avait d'autres hommes sur d'autres planètes. Est-ce que dans notre compréhension du Dieu créateur, il aurait pu créer d'autres hommes ou d'autres êtres sur d'autres planètes. Il y a des théologiens qui se sont penchés sur la question. Ça n'a pas vraiment fait avancer le schmilblick. Donc, et là, encore une fois, je reste un petit peu de façon générale, mais c'est une des recommandations qu'il fait à Timothée, fais gaffe, il y a des choses inutiles. Alors repère-les, et puis, allez, Paul, il n'entre pas en discussion avec tous les gens qui tiennent des mauvais propos. Il leur dit simplement, vous savez quoi, ce n'est pas l'Évangile. Alors basta, terminé, on continue, on s'attache à l'Évangile. C'est ça qui est important. Et la troisième et dernière, c'est tout ce qui touche dans un sens à notre façon de nous présenter devant Dieu. Et qu'on appelle un petit peu la piété. Et c'est là où il dit à Timothée, et il le répétera d'autres façons, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. » Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Ce n'est pas tellement la fin du verset qui m'intéresse que le premier, qui est de s'efforcer de se présenter devant Dieu. Chers amis, tous les jours, on est d'une façon ou d'une autre présent devant Dieu. Alors, est-ce qu'on est présent en baissant la tête et en pensant à autre chose? Est-ce qu'on est présent en ayant une figure de déterré? Ou alors, est-ce qu'on se présente devant Dieu avec la révérence et l'adoration qui lui est due, mais aussi avec cette promptitude à vouloir être un serviteur du Seigneur et à vivre comme il nous l'enseigne et comme nous devons tous les jours. Et donc notre vie spirituelle est quelque chose qui est extrêmement importante. Pas simplement répéter la sainte doctrine, mais de vraiment vivre d'une façon que le Seigneur souhaite de notre part et dans laquelle il nous a conduites. Et là, l'apôtre Paul, il a ce souci pastoral pour Timothée. Et je crois que si cette lettre nous est parvenue aujourd'hui aussi, c'est parce que c'est quelque chose d'important. Que nous offrions notre corps, notre vie tout entière, comme un sacrifice spirituel. à notre Seigneur. C'est ce que nous avons de meilleur à offrir. Et c'est ce que le Seigneur attend. Je m'arrête là et je vous encourage vraiment à lire cet épître, du début jusqu'à la fin. Mais lisez-la avec tout simplement cette approche de l'apôtre Paul qui était là de vouloir encourager l'Église. Et pensez à notre Église. Pensez à vous-même. Pensez aux dons que le Seigneur vous a donnés, que vous exercez dans cette Église. Et voyez comment cette épître peut vous encourager à encore faire mieux. Parce que le Seigneur vous assiste par son esprit et il vous adresse un appel qui est un appel qui est saint. Mais comme dit l'apôtre Paul, tout ce que nous avons placé dans le Seigneur, dans notre confiance et notre foi, Dieu le préservera et nous donnera les moyens de l'accomplir jusqu'au jour de notre rencontre avec lui. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole parce que c'est une parole qui aujourd'hui encore fait écho dans notre vie. Seigneur, je veux te remercier d'avoir préservé cette parole au cours des siècles et de nous l'avoir transmise. Je veux te remercier Seigneur aussi pour l'exemple de l'apôtre Paul et ses événements à la fin de sa vie, mais le souci Seigneur qu'il avait de encourager les églises, d'encourager Timothée, de nous mettre en garde. Seigneur, merci pour cet amour que tu lui as donné. Et je te demande que tu nous remplisses de ce même amour pour que nous puissions veiller les uns sur les autres et nous encourager les uns les autres. Seigneur, que ton église ici à Préfecin soit une église dans laquelle ton évangile est prêché, dans laquelle chacun, Seigneur, puisse s'épanouir en toi et être transformé, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, il n'y a rien que nous ayons fait, il n'y a rien que nous soyons qui puisse t'empêcher de faire cette œuvre en nous. Alors ce matin, Seigneur, nous nous ouvrons à toi et nous te prions que tu nous fasses cette grâce. Au nom de Jésus. Amen.
Merci à chacun pour ce qui a été partagé, ce que nous avons reçu pendant ce culte. Pour ceux qui ne l'ont pas tout à fait compris, c'est maintenant la semaine du club d'été. Je laisse Rebecca nous faire Emmanuel qui nous fait encore quelques dernières annonces à ce sujet.
Bonjour, donc juste deux, trois petites annonces. Déjà pour tous les bénévoles qui sont engagés pour la semaine, on a la réunion à 14h ici à l'église. Donc à 14h, on se retrouve tous pour faire un dernier petit point. Vendredi à 17h, vous êtes tous les bienvenus parce qu'on aura une petite soirée de clôture. Enfin, les enfants présentent ce qu'ils ont appris comme chant, la petite chorégraphie, ce genre de choses. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Par contre, si vous voulez venir, on vous invite grandement au niveau de l'église, si vous pouvez emmener quelque chose. En fait, on va faire un apéro pour les enfants et les parents. C'est Mélodie qui s'occupe de ça, et elle aurait besoin d'un petit peu d'aide, c'est-à-dire si quelqu'un peut emmener, je sais pas, un cake, ou voilà. Vous prenez contact avec Mélodie, et ça serait vraiment chouette si chacun peut amener un petit quelque chose. Sinon, je vous invite grandement à prendre un prénom sur l'arbre. En fait, je crois que c'est des petites affiches avec deux prénoms. Moi, je vous donne une combine. Ceux qui prennent les prénoms, c'est vraiment pour s'engager, pour prier toute une année pour ses enfants. C'est un vrai engagement. Moi, je vous conseille, chez nous, on avait mis l'affichette aux toilettes. Et c'est un endroit où on va, tout le monde passe. Il y a même des gens qui disent « Ah, c'est quoi cette affichette ?» Mais au moins, ça nous permet de s'en souvenir et de prier toute l'année. Parce que c'est vrai que les semaines passent vite et des fois, on y pense au début et après, on oublie. Donc voilà, et si vous voulez venir nous rendre visite, des personnes plus âgées ou comme ça, pendant le club d'été, vous êtes vraiment les bienvenus. Il y aura aussi un coin, il y a toujours un coin prière, c'est, j'allais dire, notre mamie Nelly, parce que Nelly, les enfants l'appellent mamie Nelly, notre Nelly qui va prendre ça en charge, c'est important aussi, donc il y aura un coin prière. Et puis je pense, Philippe va l'annoncer aussi, mercredi de 17h30 à 18h30, vous êtes tous les bienvenus pour venir pour faire la réunion de prière de l'église à la salle polyvalente pour prier aussi pour toute la semaine. Voilà.
Voilà, donc mercredi, cette réunion de prière où chacune et chacun est vraiment invité, le bienvenu. Ce sera suivi par le repas des bénévoles du club. Donc le repas uniquement des bénévoles, sans les conjoints, qui ne sont pas bénévoles. Donc uniquement, voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil pour l'an prochain, ça. C'est vrai que si on est bénévole en couple, le couple peut participer au repas. Dimanche prochain, notre culte ici, et c'est Frédéric Travier qui apportera le message, qui sera parmi nous déjà depuis vendredi. Des annonces un petit peu en avance. Alors, le jeudi de la semaine d'après, donc le 24, il y aura un petit concert à Saint-Genis, donc à la salle Jean Monnet. Ils organisent un petit camp d'enfants ou de jeunes qui vont se produire, qui vont présenter leur production de leur travail de la semaine. Je vous donnerai plus d'informations dimanche prochain. Ça aura lieu donc à Jean Monnet. Pendant l'été, c'est un petit peu les relâches, mais on vous propose cette année de faire un tournus au niveau des cellules. C'est-à-dire de faire une rencontre dans chaque cellule. Je vais prendre contact avec les différentes cellules. Et où les personnes qui participent habituellement aux autres cellules auront la possibilité de se joindre. Donc ce seront trois dates à trois moments différents. Ce qui permet aussi à ceux qui partent en vacances de pouvoir participer quand même aux cellules lorsqu'ils sont présents. Et puis c'est sympa aussi, ça permet de voir aussi comment ça se passe dans les autres cellules. Je vous rappelle aussi le culte à la Lècherolle le 24 août, le week-end de Col des Mosses, une nouvelle série Alpha Couple, elle et lui, qui commence en septembre, le 18 septembre. Et puis nous aurons aussi une réunion de membres le 30 septembre. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Et j'ai à cœur de vous lire deux versets dans Colossiens. Colossiens 2, les versets 9 et 10. En effet, c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Soyez bénis pendant cette semaine.